foi et turbulence.
Alors bonjour et salutations à tous et à toutes, ici François Gloutenay, vous êtes à l'écoute de l'émission Foi et Turbulence, nous sommes le mercredi 22 janvier. Bienvenue à cette table ronde qui, deux fois par mois, accueille des chroniqueurs, des observatrices et des journalistes qui ont le mandat d'analyser l'actualité récente. Nos invités vont nous aider à comprendre les enjeux derrière les faits et les événements qui nous sont rapportés quotidiennement. Alors, qu'est-ce qu'on demande à ces spécialistes? Ben, de chercher et surtout de trouver un peu de sens et d'humanité au milieu de toutes ces informations qui parfois nous submergent. Ce qui intéresse nos analystes, c'est toute l'actualité, qu'elle soit politique, sociale ou religieuse, tant nationale qu'internationale. Alors, cette semaine, ils sont trois qui viennent discuter et débattre de leur point de vue sur les événements des derniers jours et des dernières semaines. Laissez-moi vous les présenter. D'abord, Marie-Claude Lalonde, directrice nationale de la branche canadienne de l'organisme Aide à l'Église en détresse. Bonjour, Marie-Claude.
Bonjour.
Il participe aussi à cette table ronde, Mireille Dastou, doctorante en bioéthique, éthique et théologie à la Faculté de théologie de sciences religieuses de l'Université Laval. Bonjour, Mireille.
Bonjour.
Enfin, Foi et Turbulence accueille aussi cette semaine Yves Casgrain, journaliste indépendant. On peut lire ses articles chez Présence et dans Le Verbe. Bonjour, Yves.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, il sera question de la fin du cours éthique et culture religieuse, de la situation des enfants au Canada et d'un livre controversé sur le célibat des prêtres. Mais d'abord, discussion des tensions entre les États-Unis et l'Iran. Ben, à notre dernière émission, donc il y a deux semaines, on a longuement discuté de l'assassinat par les États-Unis d'un personnage très populaire en Iran. Le puissant et très craint général Qassem Soleimani a été tué le vendredi 3 janvier à Bagdad, en Irak, dans un bombardement américain décidé par le président Trump lui-même. Le président américain avait alors affirmé que le général Soleimani, qu'il a qualifié de terroriste numéro un dans le monde, préparait des attaques imminentes contre des diplomates et des militaires américains. La veille de notre table ronde, donc il y a deux semaines, l'Iran a riposté en tirant des missiles contre deux bases abritant des soldats américains en Irak. À notre émission du 8 janvier, nos invités indiquaient leurs inquiétudes et espéraient que l'Iran et les États-Unis feraient preuve de retenue et s'engageraient dans une désescalade des tensions. Et voilà que le 8 janvier, au moment où on était en onde, un Boeing 747 d'Ukraine International Airlines s'écrasait peu après avoir décollé de Téhéran en direction de Kiev en Ukraine. 9 membres d'équipage et 167 passagers, dont le tiers étaient des Canadiens, ont péri. Après avoir longtemps démenti l'hypothèse selon laquelle cet avion aurait pu être abattu par un missile tiré par l'Iran, les forces armées iraniennes ont finalement reconnu leur responsabilité dans ce drame et évoqué une erreur humaine. Marie-Claude Lalonde, si c'était un film, hein, on dirait que c'est peut-être pas vrai toute cette histoire-là, mais ça s'est passé en réalité. Là. C'est une situation comme on n'en a jamais vu, qui est avec des retournements sans bon sens.
Oui, c'est un moment où la réalité dépasse la fiction, en fait. On est toujours très ébranlé quand un avion s'écrase. En tout cas, pour moi, c'est toujours, je ressens toujours un grand vide, peut-être parce que je prends l'avion souvent et que c'est un contexte que je connais. Mais là, de savoir que ça a été fait, par quelqu'un, hein. C'est pas une machine, c'est pas un bris mécanique, il y a quelqu'un qui a appuyé sur le bouton. Et moi, ça me dépasse qu'on ne savait pas que c'était un avion civil. Ben, et normalement, là, l'aviation civile et l'armée doivent collaborer. Comment ça se fait qu'on le savait pas? Et peut-être qu'on le savait aussi, hein? On peut pas juger de ça, mais je pense que ça met l'Iran dans une posture difficile. Et moi, je dirais qu'en ce moment, si on parlait d'une personne, je dirais que l'Iran est un peu piteux parce qu'ils n'ont plus rien à dire pour se défendre face au monde entier.
Ouais. Alors, un des revirements, en fait, qu'on a remarqué, c'est que juste au moment où les premiers événements sont arrivés, on avait l'impression qu'il y avait en Iran une bonne contestation du gouvernement. Et là, en tuant un général qui était très apprécié, visiblement, par une faction du pays, on avait réussi à faire en sorte que la majorité des Iraniens étaient retournés dans la rue, mais pour appuyer le régime des ayatollahs et pour dire, ben écoutez, peu importe ce qu'on pense du régime, ne touchez pas à notre pays de cette manière-là. Ça n'a aucun sens de faire des assassinats. Et là, nouveau revirement avec cet écrasement de l'avion et la reconnaissance de la responsabilité, on a un gouvernement qui est de plus en plus isolé d'une certaine manière. Ça aussi, c'est un revirement. Je ne sais pas pour vous, Mireille, si ça a été un élément déclencheur, en tout cas, pour le gouvernement de sa perte de crédibilité même à l'intérieur de l'Iran.
Oui, mais je vais parler avec réserve puisque c'est un dossier quand même où mes connaissances sont limitées, mais j'entendais à la radio de Radio-Canada anglophone quelqu'un qui parlait, je dirais un peu, qui osait en fait émettre, énoncer des critiques contre le régime parce que j'ai l'impression que ce sont des pays où... La possibilité de critiquer le régime publiquement là est très, très limitée. Il peut même y avoir des conséquences comme des emprisonnements. Moi, personnellement, je suis quelques femmes qui ont pris des positions féministes dans l'espace public en Iran et qui ont été punies, là, je veux dire, qui ont été criminalisées. Ce sont des prisons, je dirais, où il y a de la brutalité là, comparé à ce qu'on voit ici au Canada. Alors, ce sont des c'est assez grave, là, ce qui se passe là-bas.
Alors, si le président Trump voulait déstabiliser le pays, j'imagine que les derniers événements le servent de cette manière-là. Allez-y, Yves Cazerin, là-dessus.
Ben, les derniers événements, oui, mais je ne sais pas si c'est vraiment de la faute de Trump. Bon, il n'avait pas prévu qu'on allait abattre un avion, là, je ne crois pas.
Mais j'imagine que ces stratèges devaient être assez soulagés d'une certaine manière de ce revirement-là.
Oui, évidemment, inattendu, oui. Là, je crois que ça joue pour eux. Pourquoi? Parce que, tout simplement, faut pas être naïf, le régime, à l'intérieur même du pays, n'est pas bien aimé et bien apprécié, surtout de la part des jeunes. Il y a un mouvement de contestation. On remarque à travers les journaux, à travers certains reportages, qu'il y a des manifestations un peu partout en Iran, des petites manifestations sans trop de conséquences pour le régime, mais il reste que ça s'effrite un petit peu. Les jeunes commencent à se révolter et cet événement-là, ce que j'ai entendu à travers les médias sociaux, ce qui a déplu, c'est le mensonge des autorités par rapport à l'origine de l'incident. Alors ça rajoute une pierre encore à l'édifice, ou ça en enlève une plutôt à l'édifice. Il n'est pas prêt, évidemment, à s'effondrer demain matin, mais évidemment, ça ajoute au mécontentement, d'autant plus que le pays est en crise économique depuis très longtemps, que il y a plus de 40% de la population, c'est ça, deux tiers de la population qui ont moins de 40 ans, quand même. Donc, ça fait, disons que l'espoir pour plusieurs jeunes est même petit pour l'avenir. Alors, les jeunes se révoltent, commencent en tout cas, et même si dans les faits, on ne le voit pas, dans les têtes, en tout cas, la révolte est là depuis un certain temps.
Alors, si le pays est si jeune que ça, ça veut donc dire que ce sont des gens qui étaient très jeunes lors de l'arrivée du pouvoir religieux en Iran. Revenons au Canada d'une certaine manière avec ça, parce que parmi le tiers des personnes qui sont décédées, c'était des Canadiens. C'était des gens qui avaient la double nationalité iranienne et canadienne. Donc, on a abattu des civils canadiens. Alors, c'est ce qui s'est passé. Comment est évaluer la réaction du gouvernement canadien dans tout ça? Certains ont dit que le gouvernement s'était tenu debout de ce côté-là en demandant des explications très précises et en ne se contentant pas au premier jour là, d'une simple excuse là, qui a été donnée par les autorités. Allez-y, Marie-Claude.
Je pense effectivement que dans les circonstances, le gouvernement canadien a bien fait de se tenir debout pour pour avoir des explications, mais aussi bien fait face aux citoyens canadiens qui sont affectés. Le gouvernement a effectivement offert, je crois que c'est 25 000 $ pour les familles affectées, parce qu'il faut savoir que si les familles désirent enterrer leurs proches au Canada, il y a des coûts énormes associés à ces choses-là. Alors, je pense que ça, ça aide et j'espère que le gouvernement continuera à se tenir debout parce qu'il a dit, nous, on donne de l'argent pour aider l'urgence immédiate. Mais c'est à l'Iran de dédommager les citoyens et j'espère que le gouvernement canadien va garder la pression.
Alors, comment on voit là, les prochaines semaines ou alors, les prochains jours, sans faire de politique fiction, là, mais est-ce qu'on a l'impression qu'on va assister à une désescalade, en tout cas, dans le conflit entre l'Iran et les États-Unis? Allez-y, Yves.
Ça, je pense que oui. Je pense que là, l'Iran, en tout cas, est, je pense, tenu de se tenir en carreau un petit peu, là, faire un de recul. Elle doit gérer l'enquête pour savoir les conséquences, pas les conséquences, mais les raisons premières de l'écrasement. Ce matin, dans les journaux, on voit que l'Iran voudrait étudier la boîte noire en Iran et non pas faire en sorte que les Canadiens et d'autres pays comme la France ou l'Ukraine puissent le faire à l'extérieur du pays. Là, on voit qu'il y a un bras de fer qui s'amorce. Qu'est-ce qui va arriver avec tout ça? Je pense qu'on n'est pas de 20 personnes. C'est à suivre, en tout cas.
Alors, je vous rappelle que le 8 janvier, un Boeing 737 d'Ukraine International Airlines s'écrasait peu après avoir décollé de Téhéran en direction de Kiev, en Ukraine. 9 membres d'équipage et 160 passagers, dont le tiers étaient des Canadiens, ont péri dans l'écrasement de l'avion. Alors, de l'Iran, on s'en va au Canada. En 1990, les différents partis politiques canadiens avaient voté à l'unanimité afin de mettre fin à la pauvreté infantile au Canada d'ici l'an 2000. Je vous rappelle ce que je viens de tout juste de dire. On a voté à l'unanimité afin de mettre fin à la pauvreté infantile au Canada d'ici l'an 2000. C'était peut-être un objectif trop ambitieux, puisque 30 ans plus tard, dans un rapport intitulé « Préparer le terrain pour un Canada sans pauvreté », l'organisme Campagne 2000 révèle que près d'un enfant sur 5 vit en situation de pauvreté au Canada. Pire, cette pauvreté est discriminatoire. Chez les Autochtones, les taux de pauvreté des enfants inscrits des Premières Nations vivant sur une réserve ou hors réserve sont respectivement de 53 % et de 41 %. Bref, Yves Casgrain, la situation n'est pas rose pour les enfants, ça n'a rien à voir. On n'a pas aboli la pauvreté.
Bon, écoutez, moi j'ai juste un mot, c'est scandale. C'est scandaleux, en fait, pour un pays comme le Canada, qu'il y a autant de pauvreté chez les enfants. Là, on ne parle pas des adultes, là, quand même, mais il y a des parents derrière tout ça.
Ben oui, des familles.
Beaucoup de familles monoparentales, j'imagine également, des immigrés aussi, familles d'immigrants. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas la situation au Canada. Comment est-il se fait qu'encore aujourd'hui, il y a autant de pauvreté et qu'on a mis en place un programme justement pour éradiquer la pauvreté et que manifestement ça ne fonctionne pas du tout. Alors, je pense que le gouvernement a des comptes à rendre, ça c'est évident. Et puis si on ne fait rien, ben, ça va aller en augmentant de toute façon. Je pense que c'est ça, le mot, c'est scandale. Et pourtant, on n'a pas vraiment parlé de cette étude-là. Ce que j'ai remarqué en fouillant sur Internet pour voir s'il y avait des commentaires, on revenait constamment. C'est une dépêche, je pense, d'une agence de presse,
oui.
Et ce qui était repris sans cesse. Comme si ça ne valait pas la peine de creuser la question pour en savoir davantage et puis demander au gouvernement des comptes.
Alors, on parle d'un peu plus d'un million de personnes là, pour le Canada. Là. C'est personnes pas rien, en plus là. En situation de vulnérabilité. Ce sont des enfants. Là,
des enfants.
De ce côté-ci. Une des recommandations que fait Canada Campagne 2000, on croit rêver en entendant ça, mais le Canada a encore besoin d'un programme national de services de garde à l'enfance. Moins de 3 enfants sur 10 âgés de moins de 6 ans ont accès à un service de garde réglementé et les tarifs demeurent inabordables pour la plupart des familles. Alors, on ne parle pas du Québec, là, où on a un programme ici aussi de services de garde à l'enfance, mais on parle de l'ensemble du Canada. Moins de 3 enfants sur 10 âgés de moins de 6 ans ont accès à un service de garde. On croit rêver d'une certaine manière, Marie-Claude. Là.
On croit rêver, mais il faut dire que nous, on se targue d'avoir un système, un beau système qui fonctionne. Pour avoir été parent, essayer d'intégrer le système, c'est pas toujours facile. En fait, moi-même, je n'y ai jamais eu accès. Alors, vous vous imaginez dans les provinces où il n'y a pas de tel programme et encore plus dans les poches de pauvreté dans les différentes provinces et encore plus dans le Nord. Alors, c'est vrai, les enfants n'ont pas cet accès, n'ont pas cette chance et s'il n'y a pas de service de garde, il y a des parents forcément qui ne travaillent pas et donc on perpétue aussi la pauvreté, mais on perpétue souvent la pauvreté, pas juste alimentaire, mais la pauvreté du développement de ces enfants qui malheureusement ne sont pris en charge par personne.
Alors, une autre des recommandations du rapport, c'est que, et ça aussi, on est surpris d'entendre ça, mais le Canada a besoin d'une stratégie de bons emplois et de salaires décents. Le gouvernement fédéral devrait adopter sur le champ le salaire minimum à 15 $ l'heure, indexé annuellement dans les secteurs réglementés par le gouvernement fédéral. Là aussi, on a l'impression que c'est une revendication qu'on entend souvent au Québec, où il y a un débat, au moins au Québec, mais au Canada, en tout cas, parler de 15 $ l'heure, ça aussi, c'est une surprise. C'est clair que la pauvreté des enfants passe aussi par des bons emplois pour les papas et les mamans. Allez-y, Mireille.
Oui, mais en termes de politique publique, justement, on peut se questionner sur qu'est-ce qui devrait être mis en place. Dans les dernières années, il y avait quand même un dossier d'allocation canadienne pour les enfants, pour les familles qui avait été mis en place. Moi, j'ai vu certaines statistiques qui étaient un peu moins alarmantes, là, où on disait que ce programme-là avait quand même rejoint quelques centaines de milliers de personnes, peut-être pas tous les secteurs de pauvreté dont on vient de parler, toutes les personnes qui sont affectées, mais il y avait eu quand même ce dossier-là qui avait été mis sur la table en termes de politique publique. Est-ce que, comme vous disiez, on devrait plutôt aller vers une politique publique de salaire garanti pour tous ou de salaire minimum à 15 $ de l'heure? Moi, j'aimerais bien voir des analyses à ce sujet-là. Je sais que l'idée d'un revenu minimal pour tous a été discutée à certains temps ici au Québec, mais n'a pas été repris là, par la classe politique. J'aimerais bien voir du côté canadien si ce dossier-là est comme analysé, quelles pourraient être les retombées positives.
Alors, il faut savoir, en tout cas, qu'au Canada, les allocations familiales sont quand même assez généreuses. En tout cas, certainement plus que quand vous étiez, vous, une jeune mère de famille, Marie-Claude, et moi, un jeune père de famille. Alors, mais il reste que bon nombre de gens n'ont pas accès au travail, justement. Alors, l'augmentation des allocations ne permet pas, justement, de rattraper le terrain perdu. Si on avait à dire au gouvernement canadien, c'est un échec. Là, sa politique, alors que le gouvernement de Trudeau a été élu justement pour aider la classe moyenne à s'en sortir, à baisser les impôts de la classe moyenne, à aider cette classe moyenne-là. Lorsqu'on se rend compte, c'est que la balle est dans son camp, en tout cas. Et là, il faut s'occuper aussi des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Allez-y.
Ben, tout à fait. Je pense que le gouvernement a manqué de vigilance par rapport à ce dossier-là. Je ne veux pas dire qu'il n'a rien fait. Puis je ne veux pas dire qu'il n'a pas fait de bons coups, puis que, bon, qu'il s'en est pas occupé. Mais disons qu'il reste encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Et il y a beaucoup de comment je pourrais dire ça, de choses qu'on doit faire. On doit s'occuper des logements sociaux. Le prix des logements à Montréal, tout particulièrement, si on parle du Québec, est astronomique. En plus, il manque de logements. On ne parle même pas des logements sociaux, comme je le disais. Ça n'existe presque pas. Alors, aussi, beaucoup de jeunes arrivent à l'école le ventre vide. Ils n'ont même pas déjeuné. Alors, oui, je pense qu'il y a une poche de pauvreté qui est là, qui est bien présente et qui ne veut pas disparaître du jour au lendemain pour toutes sortes de raisons, là. Et il va falloir s'en occuper. Et c'est pas juste une action qu'on doit prendre, c'est une multitude d'actions pour essayer d'encadrer le plus possible. Je pense, en parlant de l'encadrement, il y a beaucoup de groupes communautaires qui n'arrivent pas parce qu'ils n'ont pas les budgets, qui, eux, sont très près des familles, mais qui ne peuvent pas les aider de façon optimale parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour le faire. Donc, il y a une multitude de facteurs qui contribuent justement à l'augmentation de la pauvreté chez les enfants et chez les familles.
Alors, on s'attend du gouvernement fédéral, d'une certaine manière, d'être proactif dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'économie. On veut qu'il soit davantage présent sur la scène internationale. Et vous le faisiez remarquer, Yves, ce rapport-là a eu à peu près aucun écho dans les médias. Alors, on peut même penser que personne ne l'a vu passer au niveau du gouvernement. Est-ce que vraiment vous pensez que la question de le milieu communautaire, la situation des familles est une préoccupation du côté du gouvernement fédéral, Marie-Claude?
Mais je pense que oui. Je pense que c'est une préoccupation. Par contre, il faut être clair, augmenter les allocations familiales ne va pas régler tous les problèmes. Il y a des problèmes à plusieurs niveaux, par exemple. On parlait des garderies, on parlait des salaires, on peut parler d'éducation aussi, de l'accès à l'éducation. Il y a probablement des jeunes pères et des jeunes mères de famille qui retourneraient aux études si on pouvait les appuyer d'une manière intéressante pour eux. Et tout le système des réserves pour les Autochtones, alors ça, là, en passant, la loi qui gère ça s'appelle encore la loi sur les Indiens. Alors, ça nous en dit beaucoup. Et là, il y a des choses immenses à faire, sachant que les pauvres parmi les pauvres, ce sont les enfants autochtones. Alors, il y a beaucoup de travail à faire, puis je pense qu'il faut attaquer sur plusieurs fronts en même temps. Et c'est dommage, sinon très frustrant, que de voir 20 ans après l'an 2000 où on en est, c'est-à-dire à peu près au même point.
Alors, je vous rappelle qu'en 1990, les différents partis politiques à la Chambre des communes avaient voté à l'unanimité afin de mettre fin à la pauvreté infantile au Canada d'ici l'an 2000. 30 ans plus tard, l'organisme Campagne 2000 révèle que près d'un enfant sur 5 au Canada vit en situation de pauvreté. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Foi et Turbulence. Je vous rappelle avec qui je partage cette table ronde cette semaine. Marie-Claude Lalonde d'Aide à l'Église en détresse, Mireille Dastou de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval et Yves Casgrain, journaliste indépendant. Alors, il y a près de deux semaines, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a lancé une consultation publique afin de réviser en profondeur le cours éthique et culture religieuse. L'objectif avoué est de remplacer en tout ou en partie les notions de culture religieuse que comporte ce programme créé il y a une dizaine d'années. Il y a encore trop de religions à l'école, a déclaré Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation, dans certains médias. Un sondage de 10 pages, qui prend une dizaine de minutes à remplir, demande aux citoyens d'indiquer quel thème mériterait de faire partie du nouveau cours éthique et culture religieuse qui sera mis à l'essai en septembre 2021 et implanté officiellement dès la rentrée de septembre 2022. Marie-Claude Lalonde, vous avez rempli ce sondage-là.
Oui et non. Oui, j'ai eu la curiosité d'aller voir ce sondage en ligne, me disant, bon, la CAQ consulte pas beaucoup, mais il y a quand même cette avenue-là. J'ai terminé le sondage dans une très grande frustration parce que les questions étaient fortement dirigées. Finalement, les questions ne portent que sur ce que le gouvernement veut faire. Il n'y a pas d'ouverture sur rien d'autre. autres. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup dérangée. La formulation des questions elle-même était un peu dérangeante, mais ce qui m'a vraiment un peu jeté par terre, c'est qu'à chacune des questions, il y a une section indiquée « commentaires ». Et si vous indiquez des commentaires, c'est impossible de continuer à remplir le formulaire et impossible de le soumettre. Alors, moi, j'avoue, je me suis dit, vous voulez que je réponde à votre questionnaire? Vous voulez que je vous dise que si vous êtes beau, vous êtes fin? Ben, j'ai pas soumis le questionnaire. Je m'excuse si on me consulte, qu'on me consulte comme il faut, et la question religieuse vient à travers une autre question vers la fin du sondage. Alors, je ne suis pas contre la vertu, je ne suis pas contre ajouter certains sujets ou leur donner plus de place, mais il y a aucune place à la critique face à ce que le gouvernement veut faire. C'est très, très clair. On pourra me dire que c'est une erreur informatique, peut-être, mais c'est une erreur informatique qui n'est pas sans conséquence si c'est une erreur.
Alors, vous avez aussi noté qu'à l'intérieur de ce sondage-là, de cette consultation, on vous propose 8 thèmes qui pourraient faire partie du nouveau cours éthique et culture religieuse qui ne portera plus ce nom-là. Mais, vous avez l'éco-responsabilité, vous avez l'éducation sexuelle, vous avez la place des citoyens dans la société et tout ça. Et le terme religion n'apparaît pratiquement pas à l'intérieur de ces éléments-là, en disant dans un des thèmes, on dit, mais on pourrait peut-être aussi parler de religion dans ce dossier-là. Êtes-vous d'accord, oui ou non? Alors, ça nous a un peu surpris, sans doute, mais est-ce que vous, Yves Casgrain, qui avez suivi ce dossier-là depuis plusieurs années, ça fait longtemps que vous écrivez sur le cours éthique et culture religieuse, ça fait longtemps qu'il y a des gens qui demandent à ce que ce soit modifié, que ce soit amélioré, que certaines parties soient corrigées. Il reste que l'annonce il y a 2 semaines du ministre a pris plusieurs personnes par surprise.
Oui, comme dans plusieurs dossiers, le gouvernement avance très rapidement, sans trop de consultations. Alors ça, c'est pas vraiment étonnant. On commence à s'habituer à sa manière de faire. Alors oui, ça peut étonner sur le coup, hein, mais disons que si on prend un peu de recul, c'est sa manière de faire jusqu'à présent dans plusieurs dossiers. Ils avancent comme ça, sans trop de consultations, comme le dossier de l'aide médicale à mourir. Il a décidé que ce serait ça, comme ça, que ça va se passer sans vraiment de consultation. Alors, donc, je suis pas vraiment, vraiment surpris. D'autant plus que M. Legault, vous me l'avez dit d'entrée de jeu, estime lui-même que dans le cours, il y a trop de place accordée à la religion.
Alors, c'est Jean-François Roberge, plutôt.
Ah, c'est M. Roberge, oui. Okay.
Bon, mais peut-être bien que M. Legault est d'accord avec lui, sans doute.
Oui, fort probablement. Alors, ça dit beaucoup de choses. Alors, on ne peut pas s'étonner, après que, dans le questionnaire, la religion n'est presque pas présente. C'est pas étonnant. Mais en même temps, j'ai vu des critiques d'experts qui disent que, non, là, on fait carrément fausse route. Surtout des théologiens, certes, mais aussi des experts en sciences religieuses qui sont un petit peu plus, disons, scientifiques, qui regardent, qui analysent la religion d'un œil plus scientifique, disent que oui, ce serait vraiment une erreur que de faire en sorte de diminuer la présence du religieux à l'intérieur des écoles. Et certains même disent, comme M. Geoffroy du CIFIR, une organisation qui étudie justement la radicalisation, entre autres, et qui dit que non seulement on devrait étudier la religion à l'élémentaire, au secondaire, mais également au cégep. Donc, ça va à l'encontre des prétentions là, du gouvernement. Le CIFIR dit que, de toute façon, les jeunes étudiants de secondaire 5, de secondaire 4, quand ils passent au cégep, on s'aperçoit qu'ils ont très, très, très peu de notions sur ce que c'est une religion, et qu'une des religions les moins connues, c'est l'islam. Alors qu'on sait que, politiquement parlant, c'est elle qui prend le haut du pavé, même socialement parlant, au Québec. Donc, il y a énormément de problèmes, de difficultés, et on pense régler ça en mettant moins de religieux dans ce cours-là. Je pense que c'est une contradiction totale.
Mireille Dastou, vous êtes étudiante, vous, doctorante en bioéthique et en éthique. Alors, le ministre Roberge a été clair, il y aura davantage d'éthique et moins de religion. Ça vous fait plaisir, ce changement-là?
Ben oui, mais moi, je suis un peu entre deux chaises ici parce que, évidemment, moi, j'ai étudié l'éthique et la bioéthique. Alors, je vois quand même une richesse à certains thèmes là, qui sont proposés par le gouvernement Legault. Quand on parle de participation citoyenne et démocratie, je veux dire, il y a toujours de l'apprentissage à faire, il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Éducation à la sexualité aussi, c'est quand même un dossier, je dirais, chaud, là, dans le sens où avec toute la vague MeToo, ça fait constamment l'actualité depuis plusieurs années. On sait que même dans les hautes instances, il y a eu des cas d'harcèlement sexuel, même d'agression sexuelle. Donc, il y a certainement de l'éducation à faire de ce côté-là. Par contre, moi, ça me questionne, je dirais, sur toute la place qu'on donne aux sciences humaines et sociales en général dans nos cursus, que ce soit au primaire, au secondaire, tantôt on disait même au collégial, il me semble qu'il y a des lacunes. Oui, les religions devraient être mieux connues, à la fois pour en comprendre les dynamiques internationales, mais aussi pour que les étudiants développent un regard critique. Et il me semble que le cours éthique et culture religieuse avait certainement des points forts qu'il ne faudrait pas discarter si rapidement. C'est un programme qui a été mis sur place et qui était constamment amélioré depuis facilement 10 ans. Alors, il faut faire attention en changeant d'une manière précipitée. Moi, j'espère que on va arriver à un nouvel équilibre entre ce qu'on avait avec l'enseignement sur les cultures religieuses et l'introduction de ces nouvelles thématiques là, par le gouvernement Legault.
Alors, Mireille Dastou, vous espérez un nouvel équilibre, mais il semble, en tout cas, que chez les spécialistes, on craint l'avenir. Je vous raconte ce qu'a déclaré le professeur Jean-Philippe Perroux de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. C'est un spécialiste de l'enseignement d'éthique et de culture religieuse. C'est lui qui forme les futurs professeurs, entre autres, là, qui sont du primaire, là, à enseigner le cours ECR. Alors, il dit, Jean-Philippe Perroux, que l'on révise le programme éthique et culture religieuse, c'est ce que le milieu souhaite depuis longtemps. Mais que l'on réduise à l'intérieur du programme la place de la culture religieuse, comme cela semble être le souhait du ministre Roberge, cela m'apparaît tout simplement inquiétant. Vous partagez cette inquiétude, Marie-Claude?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Je partage cette inquiétude parce que pour moi, connaître les religions, et là, on ne parle pas d'évangéliser, de convaincre, on parle d'une connaissance. Connaître les religions, pour moi, c'est un outil de lecture du monde. Et comprendre les religions, ça aide à comprendre beaucoup d'autres choses dans la vie, que ce soit sur le plan, par exemple, de la géographie, des systèmes politiques, des valeurs sociales. C'est très, très important. Et si le Québec et la CAQ en particulier veulent débarrasser le religieux, je m'excuse, il faut quand même arriver à la conclusion que le monde entier ne pense pas comme ça. Et si nous voulons comprendre le monde, il faut comprendre le fait ou le phénomène religieux. Alors, pour moi, d'évacuer la question, c'est d'évacuer une grande capacité de compréhension, de discernement, de sens critique même, comme on en a parlé. Je ne vois rien de positif là-dedans, mais comme je disais, moi aussi, qu'on parle d'éthique, d'éco-responsabilité, de sexualité, je trouve que c'est bien, mais pourquoi complètement évacuer le religieux? Il semble y avoir une allergie au religieux au Québec.
Bien, on va revenir sur cette allergie-là, mais je voudrais juste rappeler, Jean-Philippe Perroux dit aussi qu'il ne faut surtout pas agir dans la précipitation quand on prépare un nouveau cours. Et on a l'impression que dans ce cas-ci, c'est ce qui est en train de se passer. On prend des professeurs qui enseignaient justement une matière, éthique et culture religieuse, et on va en faire des professeurs dans un an ou deux ans, qui vont enseigner environ une dizaine de sujets, et donc plus du tout la question de la culture religieuse, beaucoup de l'éthique, l'éco-responsabilité, les relations avec les citoyens, l'éthique sociale, et aussi l'éducation sexuelle. Est-ce qu'on sera capable de former ces professeurs-là en un an? C'est une tâche un peu dangereuse, n'est-ce pas, Yves?
Ben, Jean-Philippe Perrault, justement, disait dans Présence Information Religieuse qu'il disait qu'il allait bientôt, je ne sais pas quand est-ce que ça a été écrit, l'article, mais en tout cas, il allait rencontrer ses 60 étudiants et étudiantes. Il dit, devant tout ça, je ne sais pas quoi leur dire.
Ben oui, est-ce que vous avez un emploi l'an prochain?
Exactement. Et si oui, lequel? Lequel? Oui, oui. Qu'est-ce que vous allez enseigner en plus? Alors, c'est preuve, encore une fois, que la CAQ manque de jugement critique, justement. Alors, et qui agit tout le temps dans la précipitation. Mais une chose que j'ai remarqué aussi, beaucoup de commentaires sur le fait que on ne veut pas et on espère que le cours ne devienne pas un fourre-tout. Mais manifestement, c'est ce qui va arriver. Mélanger, je veux bien qu'on discute et qu'on éduque nos jeunes à l'éducation sexuelle, mais je crois que ce cours-là devrait être mis ailleurs et non pas dans tout ça. C'est un amalgame. On met tout ça ensemble, mais qu'est-ce que ça va donner? Une bouillabaisse indigeste? Je pense que ce cours-là mérite mieux et surtout qu'on se penche, qu'on prenne le temps. Il n'y a personne qui est mort, là, puis il n'y a personne qui a... les étudiants ne sont pas partis dans la rue contester ce cours-là. Je pense qu'on a encore du temps devant nous pour construire un cours qui répondent mieux aux attentes de tous et de chacun de le bâtir de façon, disons, qui répondent mieux à la situation actuelle, à savoir que le religieux est très présent et en politique tout particulièrement, et qu'il va falloir, s'accommoder de sa présence ici. Il y en a qui ne veulent pas que le religieux soit public. Malheureusement, c'est le cas. C'est présent. Pour moi, je dis heureusement. Pour d'autres, c'est malheureusement. Mais il va falloir quand même prendre acte de cette réalité-là.
Alors, justement, on l'a nommé, on a dit qu'il y a une allergie à la religion. Et quand on regarde la façon dont a fonctionné le gouvernement Legault depuis son arrivée, on voit bien, en tout cas, qu'il y a un petit problème avec les questions religieuses. On a retiré, par exemple, on empêche les gens qui portent des symboles religieux à l'école, par exemple, d'enseigner au primaire et au secondaire. On a retiré le crucifix de l'Assemblée nationale, ce dont on a souvent entendu parler. On a retiré à l'intérieur de la loi de l'instruction publique tout ce qui était confessionnel ou toutes les mentions du mot spiritualité, même le comité qui aidait le ministre à discuter des questions religieuses, ça n'existe plus. Ce comité-là a été retiré de la loi sur l'instruction publique. Est-ce qu'on n'a pas l'impression, un dernier mot, Mireille, mais est-ce qu'on n'a pas l'impression que ce gouvernement-là est en train carrément de retirer la religion des écoles?
Oui, bien en fait, moi j'ai des préoccupations entre autres pour les animateurs, animatrices à la vie spirituelle, oui, et l'engagement communautaire. Ces personnes-là jouent un rôle essentiel selon moi dans les écoles, en sensibilisant à différents enjeux de société. Ces personnes-là sont très appréciées, règle générale, dans les milieux. Alors, j'espère que le gouvernement va être capable de reconnaître le travail de ces personnes-là. Et va être capable de... d'être vraiment à l'écoute de ses citoyens et du milieu, et qu'on n'aura pas affaire à des décisions détruiraient des belles choses qui sont en place.
Alors, je vous rappelle qu'après deux semaines, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a lancé une consultation publique afin de réviser en profondeur le cours éthique et culture religieuse. Alors, on va avoir un petit débat sur un livre un peu controversé dans les prochaines minutes. Alors voilà, l'annonce d'un livre du cardinal Robert Sarah, co-signé par Benoît XVI, a déclenché une polémique sans précédent dans l'Église catholique il y a quelques jours. Alors, le dimanche 12 janvier, la maison d'édition Fayard annonçait la publication en France 3 jours plus tard. Ça a été gardé secret tout ce temps-là. 3 jours plus tard, d'un livre co-signé par le pape émérite Benoît XVI et le cardinal Robert Sarah, préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, donc quelqu'un de haut placé dans la hiérarchie vaticane. Cet ouvrage, intitulé « Des profondeurs de nos cœurs », est présenté comme une défense par les deux hommes du célibat sacerdotal, donc du célibat des prêtres. Fait intéressant, ce livre paraît alors que le pape actuel, François, prépare une exhortation apostolique sur le synode sur l'Amazonie, dans lequel il doit statuer sur le fait que dans des régions sans prêtres et où les communautés sont privées d'Eucharistie, l'Église puisse ordonner des hommes mariés. Vous avez fait sans doute, Mireille, vous aussi, cet amalgame-là. C'est pas anodin, la publication d'un livre semblable sur le célibat des prêtres au moment où François planche sur une exhortation apostolique sur le sujet.
Oui, eh bien, écoutez, c'est sûr que le cardinal Sarah... quand on parle de politique à l'intérieur de l'Église, je crois que tout à fait conscient que la sortie de ce livre arrive à un moment, je dirais, critique, puisqu'on sait que le pape François est en train, comme vous dites, de préparer cette exhortation apostolique et que il y a beaucoup de choses qui se sont dites suite au synode sur l'Amazonie. Moi, personnellement, j'aimais bien la position du cardinal Schoburn, j'espère le prononcer, qui misait beaucoup plus vers la pastorale de présence dans l'Église catholique, où on parlait de valorisation d'un sacerdoce commun, et aussi de la question de la régularité de la présence des prêtres dans les communautés. C'est un des arguments en faveur, je dirais, de ces prêtres qui sont mariés. Et en fait, ce cardinal-là disait que lui-même, étant donné qu'il a, je crois, dans sa juridiction des communautés chrétiennes de rites, je cherche le nom, mais qui ne sont pas latins, et dans le fond, ils côtoient des prêtres, en fait, ce sont des prêtres orientaux, ça me revient, qui, eux, sont mariés. Et je dirais que c'est de reconnaître aussi la qualité de la présence de ces personnes-là. Moi, c'est vers là que je regarde, je dirais. Donc là, quand je vois le livre du cardinal Sarah, et en plus, bon, avec toute cette histoire que là, Benoît XVI est co-signataire, ça me semble refléter une partie de la position qu'il y a dans l'Église catholique où on craint beaucoup le moindre, je dirais, changement. C'est ça, je dirais que la position du cardinal Sarah et de Benoît XVI, pour moi, représente plus l'arrière-garde, et alors que moi, j'essaie de me situer à l'avant-garde.
Mais alors, il reste que, il y a toujours eu un débat, en tout cas, de ces dernières années sur la question du célibat des prêtres. Le pape Jean-Paul II a été très clair et très ferme là-dessus. C'était clair. Ça bougerait pas, le magistère ne bougerait pas sur le sujet, mais il reste que le pape François, lui, est engagé, en tout cas au moins dans une réflexion là-dessus. Il y a eu un synode là, qui a discuté de la situation. On a l'impression qu'on est en train d'instrumentaliser d'une certaine manière peut-être le cardinal Sarah ou même le pape Benoît XVI contre son successeur, le pape François. Vous avez cette impression-là, Marie-Claude?
En fait, je pense qu'on est en droit de se poser la question. Moi, je me suis posé plusieurs questions. Est-ce que le pape Benoît a été manipulé? Est-ce que le cardinal Sarah a également été manipulé par des groupes qu'on pourrait dire plus conservateurs? Mais bon, on sait bien où loge, à quelle enseigne loge le cardinal Sarah également. Est-ce que tout simplement le pape Benoît aurait mal jugé des conséquences d'un tel acte? Raison pour laquelle maintenant il désire retirer son nom. Mais on peut se demander, est-ce que c'est une tentative d'influencer le pape François et de créer une levée de bouclier contre cette idée d'avoir des hommes mariés ordonnés? Il faut quand même répéter que le pape François a dit être pour le célibat, mais comprendre qu'en certaines circonstances, peut-être faudrait-il faire autrement. Et moi, ce que j'ai trouvé affreux, c'était en fait, dans le livre, on parle du mariage des prêtres comme étant une catastrophe pastorale. Alors, je m'excuse, je côtoie beaucoup d'églises orientales où un certain nombre de prêtres sont mariés. Pas tous, mais certains sont mariés. Je m'excuse, la catastrophe annoncée, je ne l'ai pas vue. La même chose avec les Anglicans. On admet de plus en plus chez les catholiques des pasteurs anglicans qui se convertissent avec leur famille. Ils sont mariés. On leur demande pas de divorcer pour intégrer l'Église catholique. On les accepte en tant comme mariés. Encore là, où est la catastrophe? Je pense que la grande qualité du pape François, c'est d'être ouvert aux suggestions et au dialogue. Et je suis certaine qu'il est dans une phase de discernement très intense d'ailleurs. Hein. Je ne pense pas que c'est quelque chose qu'il prend à la légère. Et voyons voir ce que François fera. Mais pourquoi le cardinal Sarah et peut-être également le pape ont voulu je dirais mettre de l'huile sur le feu parce que c'est un débat qui est très chaud. Je ne connais pas leur motivation profonde, mais c'est un peu dérangeant.
Mettre de l'huile sur le feu ou encore influencer le pape François qui est en pleine rédaction. On s'attend à ce que son exhortation apostolique paraisse d'ici la fin janvier ou au mois de février. En fait, on l'attendait pour Noël. Alors, on a l'impression que il y a du grenouillage là, politique dans cette histoire-là. Allez-y.
Le mot est faible.
Oui.
Le mot est faible. J'ai à mon esprit une autre expression. Qui va faire sursauter peut-être, mais c'est quasiment un coup d'État, son histoire. Là. Le cardinal Sarah est en campagne politique, littéralement. C'est comme, il me fait penser...
Qu'est-ce qu'il veut?
Il veut devenir pape.
Ah bon?
Tout simplement. Puis alors, il prépare,
ça a été dit à l'émission Point Turbulence, ce fin 2 janvier.
Je me suis abonné à son fil Twitter.
Ah, oui,
ça a l'air anodin, mais ça ne l'est pas. J'ai regardé
beaucoup.
Les photos qu'il met en ligne. Ben pour un cardinal, là, ben je ne sais pas s'il s'est trompé, mais il y a beaucoup plus de photos de Benoît XVI que de pape François.
Ah bon, okay.
C'est incroyable. Mais non, mais je le dis comme ça, même avec un sourire en coin, mais il reste que ça veut dire beaucoup. Et les autres photos, ben c'est lui qui serre les mains, qui sourit. Manifestement, ce bonhomme-là a des idées bien arrêtées, puis il se voit pape, puis sauver l'Église, parce qu'elle est en perdition, cette Église-là. Il a avancé des positions avant qui le met très, très proche des traditionalistes. Alors, je crois que cardinal Sarah est à campagne et qui a des idées bien arrêtées, puis que ça fait partie d'une stratégie, tout simplement. Je crois pas qu'il soit manipulé. Je crois que c'est ses idées à lui. Il a parlé contre l'immigration massive aussi en Europe.
Oui, ça, c'est vrai.
Il veut aussi retourner à la messe. Il a déjà évoqué, en tout cas, la possibilité d'élargir encore plus pour qu'on puisse voir plus souvent la messe d'eau au peuple. Bon, il y a des idées bien arrêtées.
Mais certainement pas des idées qui pourraient le faire devenir pape, en tout cas, j'imagine.
Non, mais dans son esprit, il y a assez de monde pour pouvoir l'appuyer pour...
lors d'un prochain conclave.
C'est ça, exactement.
Voilà. OK. Alors, on est devant quoi, là, dans une situation semblable? Vous avez d'une part le secrétaire même du pape émérite là, qui dit « Je peux confirmer ce matin, j'ai demandé au cardinal Sarah de contacter les éditeurs du livre en les priant de retirer le nom de Benoît XVI comme co-auteur du livre et de retirer aussi sa signature de l'introduction et des conclusions », a déclaré le secrétaire du pape là, tout de suite après en apprenant que son patron allait publier un livre. Mais évidemment, le livre est paru hein, le 15 janvier et on voit très bien la signature de Benoît XVI sur la couverture. On n'a pas pilonné les livres, on les a publiés tels quels. Le cardinal Sarah, lui, a rapidement réagi en disant « Le pape émérite a clairement été informé de ce projet de livre auquel il m'a remis ses notes. » Alors, ce sont ses notes qu'il a utilisées, mais le pape savait qu'il y aurait un livre qui serait publié, peut-être pas en janvier, mais en tout cas, assez rapidement. Mais ça soulève une question intéressante, et c'est nos confrères en Europe qui l'ont souligné, c'est que dans l'Église catholique, un évêque émérite, habituellement, lorsqu'il cède sa place à son successeur, devient davantage discret, se fait discret, n'intervient pas dans les affaires du diocèse qu'il a quitté, ne va pas confesser les prêtres, par exemple, du diocèse qui pourraient se plaindre du nouvel évêque, des choses comme ça. Mais dans le cas d'un pape émérite, ben là, on a une première. Est-ce qu'un pape émérite doit se retirer ou il devrait se taire, devrait cesser d'écrire, ou bien si chacun de ses gestes va être interprété comme une attaque envers son successeur. Allez-y là-dessus, Marie-Claude.
C'est vrai qu'on fait face à une nouveauté. C'est clairement une situation, puis on sera peut-être les seuls de notre génération là à pouvoir dire « j'ai vu deux papes
oui. ».
Ça s'est déjà vu dans l'histoire, mais pour d'autres raisons. Mais le pape Benoît lui-même avait dit qu'il se retirait dans le silence et qu'il allait être fidèle au pape François. Manifestement, c'est quand même la deuxième fois où il sort du rang, disons ça comme ça. Quel est son rôle exactement? Ben, il n'y a rien de défini, sauf que si dans le cadre d'un diocèse, on comprend que l'évêque émérite doit se tenir à l'écart et ne pas commenter ce que fait son successeur, mais je pense que ça devrait également s'appliquer au Vatican. Après tout, le pape, c'est l'évêque de Rome. Alors, il est maintenant évêque de Rome émérite, pape émérite, et je pense qu'il a un grand devoir de réserve à cet égard, mais il y a peut-être une mauvaise compréhension du rôle. On apprend, je pense, par les événements également. C'est juste une situation un peu malheureuse. On sait que l'Église, ce n'est pas quelque chose d'homogène. Il y a des opinions diverses, et c'est bien qu'elles puissent s'exprimer, mais est-ce qu'elles devraient être le fait de deux papes, l'un qui affronte l'autre, je ne pense pas. Je pense que la décence voudrait que les discussions se passent autrement.
Alors, le pape François a déjà dit qu'il ne serait pas pape jusqu'à la fin de sa vie. Mm-hmm. Il pourrait bien donner sa démission, comme a fait Benoît XVI. Alors, on aurait trois papes à ce moment-là. Alors, il faudrait voir. En tout cas, c'est certain qu'on va discuter à foi et turbulence si une telle éventualité arrivait. Alors, écoutez, c'est la fin pour cette émission, une émission avec de bons débats. C'est le moment où on demande à nos invités de nous parler, de nous faire une suggestion de lecture, d'une activité aussi qui serait intéressante, ou encore un élément sur lequel on pourrait discuter dans les prochaines semaines, auquel les gens qui nous écoutent pourraient aussi porter attention. Alors, allez-y, Marie-Claude Lathlon.
Oui, bien nous, on est à la veille de sortir notre nouveau bulletin d'information, donc des informations...
C'est l'aide à l'Église en détresse.
C'est ça, oui. Sur l'aide à l'Église en détresse. Et comme je le disais tout à l'heure, si on tente d'évacuer le religieux, c'est pas le cas ailleurs. Et dans ce numéro-là particulièrement, on va parler de vocation dans les pays étrangers. Et il y a une magnifique photo d'un prêtre tout sourire qui nous donne envie de croire que ce n'est pas la fin, mais bien le début.
Alors, parmi les dossiers sur lesquels vous allez aussi vous pencher ces prochains mois, certains pays en particulier qui vous inquiètent?
Le Nigeria. Je pense que je ne peux pas passer outre le Nigeria. Chaque jour amène son lot de personnes assassinées, exécutées. On a deux groupes violents au sein du pays, Boko Haram et aussi les bergers Peul qui s'attaquent beaucoup aux chrétiens, mais pour des raisons qui ne sont pas à la base religieuse. Mais c'est en train de devenir un conflit et il y a eu 4 séminaristes enlevés il y a une semaine ou deux. Mm-hmm. Un a été relâché, mais on est toujours sans nouvelles des 3 autres. Donc, c'est un pays très, très chaud, le Nigeria. Et je pense qu'on va voir une spirale vers le bas pour de la violence.
Alors, un pays chaud sur lequel on n'a pas beaucoup d'informations, malheureusement.
Effectivement.
À l'intérieur de nos émissions. Alors, continuez de nous en parler ici à Foi et Turbulence. Yves Casgrain.
Oui, Notre-Dame du Cap publie son numéro de janvier et dans lequel paraîtra ma première chronique en santé mentale que j'ai intitulée « Esprit sain ». Donc, je vous invite à lire sur ce sujet qui est hautement d'actualité puisqu'on sait maintenant que l'aide médicale à mourir a été élargie aux personnes atteintes de maladies mentales. Donc, pour ceux qui veulent s'informer, mettre un petit peu de foi aussi dans ce dossier-là, d'espérance aussi. Donc, je vous invite à lire ma chronique qui va paraître tous les mois dans Notre-Dame du Cap.
La revue du sanctuaire Notre-Dame du Cap.
Oui, c'est ça.
Le sanctuaire du même nom. Allez-y, Mireille Dastou.
Oui, bien, en fait, moi, je rebondis sur ce sujet-là. Présentement, il y a une consultation publique du gouvernement du Canada avec le ministère de la Justice. Jusqu'au lundi 27 janvier.
C'est bientôt, ça. C'est dans quelques jours.
C'est ça, quelques jours encore sur cette question d'aide médicale à mourir. Je vous invite à regarder ce qui se fait du côté de la consultation publique, puis peut-être même répondre. Donc, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui se passent encore de ce côté-là. Au Québec, il va y avoir un forum national la semaine prochaine, mais je ne crois pas que là, les citoyens ont un rôle de consultation pour au niveau du Québec. Et j'aimerais, côté politique international, simplement vous dire qu'il y a l'impeachment de Trump là, qui se tient en ce moment. On en avait parlé dans des émissions précédentes. Donc, suivez le dossier pour voir où ça s'en va.
Ben oui, alors, effectivement, les procédures de destitution contre le président Trump, et c'est vrai qu'on en a parlé et on en parlera probablement dans 2 semaines à la prochaine émission de Foi et Turbulence. Mais alors voilà, c'est tout pour cette édition. Alors, je vous rappelle que l'émission Foi et Turbulence est produite par l'Institut de pastoral des Dominicains avec le soutien financier de la Fondation canadienne de la vidéo religieuse et de la Fondation Adieu va. Notre prochaine table ronde sur l'actualité aura lieu dans 2 semaines, soit le mercredi 5 février 2020. On vous y donne déjà rendez-vous. Merci à nos invités, Marie-Claude Lalonde, Mireille Dastou et Yves Casgrain. Merci à Mathieu Lavigne, le coordonnateur de cette émission, et à Daniel Fortin, à la régie. À l'animation, c'est François Gloutenay de l'agence de presse Présence. Merci d'être à l'écoute de Foi et Turbulence.